Bonsoir mes frères et sœurs. Alors nous allons ouvrir le Saint-Livre dans l'Épître aux Hébreux au verset 4. Il y a deux chapitres sur le repos. Et hélas, c'est vrai que la vie avec Dieu c'est quoi? Est-ce que c'est un combat? Donc le combat ça peut être un bon combat ou un mauvais combat. Vous êtes d'accord? La Bible dit combat le bon combat de la foi. Beaucoup de chrétiens ne savent même pas ce que c'est le bon combat de la foi. Et toute leur vie, ils souffrent parce qu'ils combattent un mauvais combat contre la chair et le sang. La raison de cette affaire, c'est que ces chrétiens ne sont jamais rentrés dans le repos. Ce repos que Dieu nous propose. Par exemple, dans Hébreux, vous pourrez méditer le chapitre 3 et le chapitre 4 en entier, car ces deux chapitres parlent du fait que la désobéissance entraîne cette difficulté. Et il y a un commandement, Hébreux chapitre 4, verset 11. Oui, c'est un verbe actif. Les verbes qui nous concernent, il faut qu'on les comprenne. Quand il est dit « Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. » En vérité, c'est de la désobéissance. Regardez au verset 18 du chapitre 3. Vous voyez, regardez, c'est présenté de la même différemment. « À qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi ?» Et regardez le verset 19. « Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. » Donc, ils ont été incrédules et c'est pour ça qu'ils n'ont pas obéi. Et comme ils n'obéissent pas, ils n'entrent pas dans le repos. Mais nous, c'est une exhortation que ce soir, nous pouvons entendre ou réentendre avec beaucoup de joie. Nous devons rentrer dans le repos. Vous connaissez tous la fameuse invitation de Jésus au chapitre 11 et au verset 28. C'est un verset qu'on devrait apprendre par cœur, qu'on devrait graver dans son cœur afin que le Saint-Esprit puisse nous le rappeler. Je vous ai expliqué en son temps que dans Matthieu chapitre 11, verset 11, 28 à 30, il y a deux repos. Vous vous en rappelez? Est-ce que vous vous en rappelez? Non, c'est parce que si vous ne vous en rappelez pas, je le réexplique. Est-ce que ça vaut la peine que je le réexplique? Oui, c'est bien. Matthieu 11, verset 28. Jésus s'adresse à tous les hommes. Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés. Fatigués, ça nous parle de la fatigue physique. Le fait d'être chargé nous parle de la fatigue psychologique ou spirituelle. Et je vous donnerai du repos. Il y a un repos que Dieu donne. Il faut bien écouter, mes frères et sœurs. C'est sérieux la vie avec Dieu. C'est magnifique, mais beaucoup de chrétiens sont toujours épuisés, toujours malheureux. Et pourtant, ce sont de vrais chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris ce qu'on va voir. Je vous donnerai un repos. Il y a un repos, Dieu le donne. Quand vous acceptez Jésus-Christ comme sauveur, hein, comme rédempteur, qu'est-ce qui se passe? Vous obtenez le salut de votre âme. Vous avez écouté les témoignages dimanche, vous étiez là, vous avez écouté Audrey, Amélie, hein, Fabiola, qui c'est qu'il y avait encore, hein. Vous avez entendu ces témoignages, à un moment donné, elles ont fait un choix de dire « Nous, on accepte Jésus-Christ comme Sauveur et comme Seigneur. Il nous a ouvert les yeux, on a vu que son sang pardonnait nos péchés. Je résume, voilà. Et vous avez reçu le repos. Dieu vous a donné le repos. C'est un don. La seule chose qu'on dit, c'est quoi? Merci. À quoi on reconnaît quelqu'un qui a reçu le salut? Il est tout le temps en train de dire merci. Vous aimez dire merci, en fait? Vous dites souvent merci? Si vous ne dites pas merci, ce n'est pas bon signe. Deuxièmement, regardez bien. La première chose, il faut venir, c'est la croix. Deuxième étape, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Dans la version d'Arby, il est dit, apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez le repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. C'est un autre repos. Le premier, Dieu le donne. Je vous donnerai du repos à la croix. On est à genoux, on est bouleversé. On réalise que le Dieu du ciel est venu, je le répète. Et on dit merci pour le pardon de mes péchés. Pourtant ça s'appelle le repos de l'âme. Je suis sauvé. Mais le verset 29, c'est une autre affaire. Ça nous incombe à nous. Prenez. Vous voyez là, c'est pas je vous donne, c'est prenez mon joug. Recevez mes instructions. Et vous trouverez, le verbe trouver indique qu'il y a une démarche. Il faut chercher. C'est ce qu'on est en train de faire d'ailleurs au travers de ce qu'on fait ce soir. Et vous trouverez le repos pour vos âmes. Ça, c'est le repos de la foi. C'est pas le même repos. Est-ce que vous avez compris? Il y a deux repos. Il y a le repos de l'âme qui est le salut de l'âme. Mais ça suffit pas. Il faut rester encore sur la terre jusqu'à ce qu'il vienne nous prendre. Il faut trouver ce repos qui est le repos de la foi qui vient lorsqu'on écoute une exhortation, une instruction. Empressons-nous donc d'entrer dans le repos. C'est pas parce que ça va mal, que tout se détériore autour de nous, que tout ira de plus en plus mal, que les chrétiens ils doivent s'affoler. Non, au contraire. Les chrétiens ils doivent être dans le repos. Et même si nous voulons combattre le bon combat, comment pourrions-nous combattre par la foi si nous ne sommes pas rentrés dans le repos? C'est impossible. Et nous, parfois, les pasteurs, vous voyez, si on demandait aux jeunes qui ont pris le baptême, maintenant il faut combattre le bon combat, il faut venir aux réunions de prière. Oui, c'est vrai. Mais moi, je vais vous dire une chose, pour être de bons soldats, il vaut mieux être rentré dans le repos de la foi. Oui, béni soit Dieu pour le bon combat. Vous avez jamais été peiné? Moi, c'est une chose qui m'a peiné quand je me suis converti. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de chrétiens qui étaient angoissés. Je ne parle pas d'une angoisse ponctuelle que l'on peut avoir parce qu'une épreuve nous a touchés. Ça peut arriver, une mauvaise nouvelle, et on a quand même la boule au ventre pendant une heure ou deux heures ou deux jours, ça dépend des gens. Il y a des chrétiens qui sont jamais rentrés dans le repos. Le résultat, c'est qu'ils sont dans le désert. Alors, moi, ce soir, je voudrais vraiment que nous apprenions tous à mieux rentrer dans le repos. Recevez. Mes instructions. Qu'avez-vous reçu depuis que vous êtes au Seigneur, en fait? Qu'est-ce que vous avez appris? Apprenez de moi. Recevez de moi. Qu'as-tu que tu n'aies reçu, dit le Seigneur? Est-ce que vous avez appris qu'il faut marcher, oui, pas à côté du Seigneur trop loin, mais sous le même joug que lui? Il y a des efforts à faire. C'est vrai qu'il y a des efforts. Mais les efforts, ce n'est pas des efforts pour... Parce qu'il y a plusieurs sortes d'efforts. Est-ce que vous faites confiance à vos efforts ou vous faites des efforts pour faire confiance? Oui, c'est bien dit quand même. Est-ce que vous avez compris ce que je viens de vous dire? On peut faire confiance à ses efforts. Je prie, je lis, je prie encore, je fais plein d'efforts. Il faut faire des efforts. On va le lire dans 2 Pierre, il y a des efforts à faire, mais pas des efforts. Pas faire confiance à ses efforts. Il y a des gens, ils sont bien quand ils ont fait des efforts. Ah, j'ai prié une heure aujourd'hui, c'est super, ça a dû plaire au Seigneur. Ben, c'est bien, même si vous pouvez prier deux heures, c'est bien. Mais est-ce que c'est ça, la confiance? Est-ce que parce que quelqu'un prie deux heures, il a deux fois plus confiance que quelqu'un prie une heure? Eh bien sûr que non. Ça ne veut absolument rien dire. Par contre, celui qui obéit toute la journée, oui. Lui, oui, il a confiance. 2 Pierre, chapitre 1er. Il nous est demandé de faire des efforts par rapport justement aux promesses. Il y a des efforts à faire. Il faut bien comprendre que c'est une chose de faire des efforts parce que l'on veut s'emparer de certaines vertus. Regardez bien. 2 Pierre, chapitre 1, verset 5. À cause de cela, à cause de quoi alors? À cause, eh bien, on va le lire quand même. Verset 3, sa divine puissance nous a donné, qu'est-ce qu'elle vous a donné sa puissance? Il n'y en a qu'un qui a répondu, j'attends quand même qu'il y en ait plusieurs. Qu'est-ce qu'elle vous a donné la puissance de Dieu? Elle nous a tout donné, ce qui contribue à la vie, à la piété, au moyen de la connaissance de celui, c'est la connaissance de Jésus, ce n'est pas la connaissance doctrinale. C'est la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Ah, est-ce que ça vous intéresse, ça? Est-ce que ça vous intéresse d'entrer dans les grandes et précieuses promesses? Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine. Alors, il y a quand même une condition importante. En fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Donc à cause de cela, à cause de toute cette grâce, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience, à la patience à la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour. Comment? Madame Bourdel, ça vous fait trop? Car si c'est, j'entends, j'ai une très bonne ouïe. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont pas est aveugle. Vous voyez, il y a des chrétiens qui sont aveugles. si nous ne saisissons pas ces choses, il y a de la cécité spirituelle dans notre vie. Il ne voit pas de loin, il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Alors la solution, c'est pourquoi frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Ça vous intéresse ? En faisant cela, vous ne broncherez jamais. Qu'est-ce que ça veut dire, au fait ? Affermir votre vocation et votre élection. L'élection, c'est notre position. On doit toujours... Vous voyez, quand on prend la Sainte-Seine dimanche matin, on affermit notre élection. Je suis sauvé, j'ai accepté Jésus-Christ, je n'ai pas affaire à un juge qui me condamne, j'ai affaire à un sauveur qui m'accueille. L'élection, c'est notre position. La vocation, c'est tout ce qu'on est appelé à faire. Appliquez-vous à affermir votre vocation. C'est ce qu'on est en train de faire. Qu'est-ce que je suis appelé à faire ? Qu'est-ce que je suis appelé à faire ? Je suis appelé à faire des efforts. Madame Bourdelle pense qu'il y a beaucoup de choses. Mais ce n'est pas grave, j'ai compris ce qu'elle voulait dire. Il faut faire des efforts pour joindre à la foi, la connaissance. Qu'est-ce que je dois faire ? Je dois entrer dans ce repos. Ce n'est pas possible, ça fait 10 ans que je suis chrétien. Je suis tout le temps en train d'avoir peur du lendemain. Alors que Jésus a été catégorique. N'ayez pas peur du lendemain. Vous avez peur du lendemain ? Est-ce que vous avez peur du lendemain ? Oui, ça peut arriver, il y a des choses. Mais mes frères et sœurs, pas un oiseau ne tombe sans qu'il ne le veuille. Quand Jésus dit les cheveux de votre tête sont tous comptés, ça veut dire qu'il maîtrise tous les détails de notre vie. Il contrôle tout. Je vous parlais tout à l'heure de la Syrie. Quelqu'un qui ne connaît pas les prophéties peut dire, mais qu'est-ce qui se passe ? Dieu ne tient pas les rênes du Moyen-Orient. Il y a des choses. Il faut que ces choses arrivent. Il faut, en plus c'est prophétisé depuis 2700 ans, je veux dire, c'est écrit, ce sont des choses qui sont préparées, Dieu règne sur tout et il nous demande d'entrer dans ce repos. Si nous voulons être des chrétiens solides, des chrétiens debout, il ne faut pas combattre, je prie, il faut prier, oui il faut prier, mais si vous priez dans la crainte, si vous priez pour prier, ça ne sert à rien. La prière, ça doit être un bon combat. Seigneur, je te prie pour les chrétiens de Syrie parce que tu veux épargner les chrétiens de Syrie. Je ne comprends pas tout ce qui se passe, ça me dépasse. Si je vous fais une étude sur la guerre de Gog et Magog, je sais que certains vont planer, mais certains vont comprendre vraiment comment Dieu prépare tout. Cette guerre, elle va arriver. Elle arrive. Et ce qui se passe en Russie aujourd'hui, vous avez vu la puissance que prend Vladimir Poutine ? C'est impressionnant. Et je peux vous dire que tout ça, c'est permis par Dieu. Et les gens ne se rendent pas compte que c'est comme un échiquier, tout est en train de se mettre en place. Mais quand vous verrez ces choses, réjouissez-vous parce que votre délivrance approche. Vous êtes ses enfants, Dieu vous garde. Pourquoi il dit, mais faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la connaissance. Oui, j'ai la foi, la confiance, mais je veux de la connaissance. Qu'est-ce que je dois faire ? Est-ce qu'il y a un psaume un texte qui pourrait m'aider ce soir à vous aider à comprendre ? Eh bien, on va prendre le psaume premier, par exemple. Mais il n'y a que l'embarras du choix, je peux vous le dire. Il n'y a que l'embarras du choix. Il y a des efforts qui ne servent à rien, mais il y a des efforts qui payent, croyez-moi. Quand on combat contre la chair et le sang, ça ne sert à rien. Vous avez déjà eu des problèmes avec des gens ? Ça vous est jamais arrivé ? Bon, c'est très très bien. Mais imaginez qu'un jour ça arrive, eh bien ne priez pour eux. Ne luttez pas contre la chair et le sang. Priez pour eux. Le psaume premier, c'est un psaume que nous devrions méditer pour voir ce qu'il faut faire pour être heureux. Heureux pas dans le sens du monde, heureux dans le sens d'être dans ce repos. On le lit en entier, s'il vous plaît. Regardez bien. Dieu sait. Les psaumes, qui sont des psaumes de louange, mais qui expriment nos souffrances, nos difficultés, nos doutes, etc., nous indiquent ce que Dieu veut. Heureux. Je vous ferai remarquer que le psaume premier commence par le mot heureux et qu'il finit par le mot ruine. Si vous avez lu le sermon sur la montagne, il commence par le mot heureux et il finit également par le mot ruine. C'est le même enseignement, mais là c'est super synthétisé. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point, tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel, connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Donc, dans ce psaume, vous avez indiqué ce qu'il vous faut faire pour être dans ce repos. C'est pas compliqué. La vie, elle est faite de... Si vous deviez parler en... Si je vous donnais une carte postale pour que vous écriviez à un ami, vous dites, voilà, résumez-moi ce qu'a été votre vie sur une carte postale. Qu'est-ce que vous mettriez? C'est une carte postale, c'est pas beaucoup, hein, écrit petit. Hein. Qu'est-ce que vous mettriez? Ma vie a été faite de haut et de bas. Ma vie a été faite de victoires, de défaites, de combats, de repos, de difficultés, d'expériences. Est-ce que vous pourriez le mettre tout ça? Vous le mettriez? Tous, même les jeunes, vous pourriez l'écrire? Oui, même les jeunes, vous pourriez le mettre. De déceptions, de rêves brisés, de combats, de découragement, de chutes, j'espère qu'il n'y en a pas trop, de relèvements. Vous pourriez l'écrire tout ça? Ça fait partie de la vie. Ah, mais par contre, maintenant, à qui attribuons-nous nos chutes? À quoi attribuons-nous nos chutes? À quoi attribuons-nous nos succès? C'est important de le comprendre. Parce que quand j'ai chuté, c'était la faute à qui? C'était la faute aux autres. Quand j'ai eu des succès, c'était grâce à moi. C'est des questions qu'il faut se poser. Dans ces psaumes, ils sont là pour nous inspirer, pour nous montrer les luttes, les combats. Vous avez lu les psaumes? Il y a même des psaumes qui sont pleins de désespoir du début à la fin. Du début à la fin, il y a des psaumes, même il n'y a pas de solution. Il y en a un, je crois que c'est le 88, ça termine par le découragement et ça finit par le désespoir. De la dire, comme si on disait, c'est un psaume sur lequel les pasteurs ne prêchent jamais. Mais je comprends en même temps. Je le regarde vite fait pour voir si c'est bien ça. Oui, c'est un psaume, c'est le psaume 88. C'est un psaume, moi j'ai appelé psaume de questionnement, j'ai mis comme titre. Moi je mets titre à mes psaumes. Vous le lirez ce psaume, c'est un psaume pour montrer qu'on a l'impression que ça ne s'arrangera jamais. Même quand on a fini de prier. Vous avez vu comment se finit le psaume 88? Tu as éloigné de moi, amis et compagnons, mes intimes ont disparu. Fait le gars, il est malheureux, maribond, chargé, troublé, la fureur, les terreurs, la fosse profonde. Il crie et rien ne se passe. Et on appelle ça des psaumes de louange. Je pense qu'il n'y a pas que des psaumes de louange, il y a des psaumes difficiles. Mais il y a des psaumes qui nous montrent qu'est-ce qu'il faut faire. Heureux. Une personne heureuse, c'est une personne qui est entrée dans le repos. C'est une personne qui a pris le temps de dire, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et qu'est-ce qu'il faut que je fasse pas? Parce que ça aussi, c'est important. Qu'est-ce que dit le verset premier? Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Est-ce qu'il y a des méchants aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des gens méchants? Est-ce qu'il y a des chrétiens qui sont méchants? Mais bien sûr, il y a des chrétiens qui n'ont aucune communion avec Dieu. Aucune. La Bible parle souvent, d'ailleurs quand il dit que le méchant retourne à l'éternel, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est des chrétiens qui n'ont pas de communion avec Dieu. Alors ils sont méchants. Les méchants dans la Bible, ce ne sont pas des pécheurs. Les méchants dans la Bible, c'est des chrétiens qui n'ont pas de communion avec Dieu. C'est important de comprendre les choses. Mais il y a une mentalité mauvaise dans le monde. Il peut y en avoir dans les églises. Soyons honnêtes, on ne va pas faire des comédiens. Il y a des chrétiens qui sont méchants. Ils n'ont pas de communion avec Dieu, ils vont à l'église, mais ils sont négatifs. Vous n'en avez jamais connu? Non? Vous n'en avez jamais connu? Mais ça peut arriver, je vous préviens. Et il y a une gradation. Vous avez vu l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Il y a des chrétiens qui vont vous décourager, qui vont vous affliger. Voyez là, qui ne s'arrête pas, c'est une chose de marcher avec, c'est une chose de s'arrêter avec, de s'arrêter sur la voie des pécheurs, et pire encore, après de s'asseoir en compagnie des moqueurs. Il y a une gradation, il faut faire attention, parce que vous travaillez peut-être avec des inconvertis qui sont méchants. Est-ce que ça peut arriver ça, de travailler avec des gens qui sont méchants? Oui. Et il faut faire attention, parce qu'on a vite fait de s'asseoir avec eux. Regardez comment le monde est méchant, regardez les journalistes. Je ne sais pas si vous écoutez les journalistes, comment ils distillent leur méchanceté. Il y en a qui sont équilibrés, c'est vrai. Mais il y en a certains, je peux vous dire que c'est des instruments du diable. Il y a des, moi, j'ai vu des chrétiens qui ont peur. Ils ne sont pas impressionnés par David ou par Jérémie ou par le Seigneur Jésus. Ils sont impressionnés par ces journalistes qui distillent à longueur de journée des mauvaises nouvelles qui essaient de nous faire peur. Il y a des gens, ils ont peur. Ils ne croient pas à les psaumes, ils ne lisent pas les psaumes. Ils regardent BFM TV à boucle. Je ne sais pas si les gens, ils ont compris que ça distille le mal, la méchanceté. C'est rare, les journalistes qui sont capables de présenter une information d'une manière très neutre. Vous savez, chacun vous dit ce qu'il veut dire. Chacun vous dit ce qu'il veut bien vous dire. Croyez-moi, vous savez si un journaliste, il est de droite ou de gauche, je peux vous le dire. Mais il faut le discerner en même temps. Mais c'est grave, parce que les chrétiens se font manger par ces choses. Les méchants, ils sont là et ils sont autour de nous et il ne faut pas les écouter. Il faut écouter ce que Dieu dit. Vous voulez vraiment le repos? Celui en qui ces choses est ne sera pas stérile. Il portera du fruit. Appliquons-nous à affermir notre vocation. Non, je ne m'assiérai pas en compagnie des moqueurs. Il y en a des moqueurs? Vous ne trouvez pas qu'il y en a des moqueurs? Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y en a des gens moqueurs? Il y a des gens, ils me disent, monsieur Gau, vous regardez pas telle émission là? J'ai dit, mais non, mais vous plaisez. Une fois j'ai regardé, on me l'avait demandé. On m'avait dit, vous allez voir, c'est marrant. C'est des gens qui font que se moquer, des politiciens, mais que de ça. J'ai dit, mais la Bible dit qu'il ne faut pas se moquer du président. Est-ce que c'est écrit? Est-ce que c'est écrit? Madame Bourdel, oui, ils sont payés pour ça, c'est vrai. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont payés pour ça que nous, il faut les écouter. J'entends tout, Madame Bourdel. Mes frères et sœurs, il ne faut pas s'asseoir avec des gens méchants. Il ne faut pas s'asseoir avec des moqueurs. Il faut se préserver du mal. Vous entendez, mes frères et sœurs? C'est archi important. Parce que vous savez, il y a un petit proverbe, il n'est pas dans la Bible, mais quand même, qui se ressemble, s'assemble. Et ça, c'est vrai que lorsqu'on s'arrête avec des pécheurs, si on se plaît avec des pécheurs, ce n'est pas bon signe. Il faut être avec les pécheurs, il faut aimer les gens avec qui on travaille. Mais quand même, moi j'ai vu tant de jeunes se faire piéger. Combien de jeunes filles, oh ce garçon, il est bien, il est mieux qu'un chrétien. Je suis sûr qu'il se convertira. Quand je vois les résultats, franchement, quand je vois les résultats, les gens, ils n'ont pas pris au sérieux ces choses. Pourquoi la Bible dit de ne pas se mettre avec un incrédule, avec quelqu'un qui est dans les ténèbres? Vous comprenez pourquoi les gens ne sont plus dans le repos? Je me souviens de cette jeune fille qui me disait, 15 ans après, « Monsieur Gau, je ne peux même pas prier avec mes enfants. Quand je chante un cantique, je ne peux même plus chanter un cantique. Ils me traitent de folle. On ne peut plus rendre grâce. Si je parle de Jésus, ils m'agressent. » Et je croyais, et ils venaient à l'église pour arriver à ses fins. Quand Dieu dit à quelqu'un de ne pas se mettre avec un infidèle, vous croyez que c'est pour nous ennuyer que Dieu dit ça? Dieu nous dit des choses pour le repos. Parce que Dieu veut votre bien, les jeunes, vous qui voulez vous marier, dites à Dieu, Seigneur, donne-moi, par contre, priez avec foi. Seigneur, tu sais le mari qu'il me faut, tu sais l'épouse qu'il me faut. Seigneur, envoie-le, envoie-la dans l'assemblée. Est-ce que Dieu peut le faire? Est-ce que Dieu peut le faire? Tu vois, Claudine, ça viendra. Ah, mais je croyais que tu parlais pour toi, mais écoute. Hein. Ne pas s'asseoir en compagnie de ceux qui se moquent. Il y a beaucoup de gens qui se moquent de Dieu. Beaucoup de gens. Il y en a des gens qui se moquent de Dieu. Mes frères et sœurs, toutes ces choses, elles sont inutiles. La solution, elle est au verset 2. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Alléluia. Est-ce que vous aimez lire la Bible? Pas lire pour lire, parce qu'on peut la lire. Moi, je la lis continuellement. Je lis des fois 20, 30 chapitres dans la journée. Parce que je veux connaître la Bible de mieux en mieux, de mieux en mieux. Mais ça, c'est une chose de lire la Bible. La méditer, c'est autre chose. Prendre un verset et s'y arrêter dessus. Tiens, qu'est-ce que ça veut dire trouver son plaisir dans la loi de l'Éternel et la méditer jour et nuit? La méditer jour et nuit, ça devient un état d'esprit. Les Juifs, les Juifs, ils lisaient la Bible à haute voix. Pourquoi? Pour la mémoriser davantage. Et c'est vrai que quand on lit à haute voix, on mémorise davantage. Je ne vous demande pas de le faire. Mais je pense que c'est bien, en tous les cas, d'amener nos pensées captives. C'est bien d'avoir la capacité de contrôler ses pensées. C'est pas à nos pensées de nous contrôler. C'est à nous de contrôler nos pensées, de dire non, je vais méditer ça. Vous avez vu qu'on dès le matin, si on écoute une musique, elle peut nous prendre la tête toute la journée? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Hein? C'est pour ça que moi, franchement, le matin, je m'impose la parole de Dieu. Je n'écoute presque plus jamais la radio, parce que si vous écoutez une chanson, ça peut vous prendre la tête toute la journée. Ou alors, il faut se faire violence, et moi, je me prends un cantique, je me l'impose, et après, quelques minutes après, ce cantique s'impose de nouveau à mon cœur. Mais c'est à nous de contrôler nos pensées, ce n'est pas à nos pensées de nous contrôler, mes frères et sœurs. La parole de Dieu doit nous rassurer. Vous devez lire la parole de Dieu. Nous devons lire la parole de Dieu. Nous devons trouver notre plaisir dans la parole de Dieu. Vous avez vu les conséquences quand même. Vous avez vu les conséquences. Un homme qui... Parce qu'il y a des gens qui lisent pour lire. Je vous avais dit combien de fois j'ai dit à des gens, mais vous n'avez pas lu ça? Mais si, monsieur Gaud, je l'ai lu 100 fois. J'ai dit, mais vous l'avez lu? Je me souviens de ce frère qui était ici au début quand je suis arrivé et qui était malheureux au travail, parce qu'on se moquait de lui, parce qu'il était chrétien. Le lundi, quand il arrivait, alors t'étais où hier? Mais j'étais à l'église. Ah, regardez le curé, etc. Il se moquait de lui. Et ce frère, il était à 6 mois de la retraite. Quand je suis arrivé, donc, il y a 20 ans. Il était à 6 mois de la retraite. Il était tout le temps malheureux. J'ai dit, mais vous n'avez pas lu le sermon sur la montagne? Moi aussi, je le connais par cœur. Et puis on va le lire. Et j'ai pris ce texte, mais vous n'avez pas lu? Heureux serez-vous lorsqu'on se moquera de vous. Et il est devenu tout blême. Mais je n'ai jamais fait attention. Heureux serez-vous lorsqu'on se moquera de vous, car votre récompense sera grande dans les cieux. Et ce gars, ça faisait 20 ans ou 30 ans qu'il était chrétien, et il m'a dit, j'ai bousillé toute ma vie professionnelle parce que je n'ai pas compris que c'était un bon combat. C'est normal qu'on se moque de nous parce qu'on est chrétien. Oui ou non? C'est normal. Il faut pas. Bien sûr, on ne va pas chercher le conflit et la moquerie, mais c'est normal. Et il me dit, mais je suis passé à côté. C'est un frère, il y avait 25 ans ou 30 ans qu'il était chrétien. Il m'a avoué, à la fin, je me rappelle un dimanche là. Il m'a dit, monsieur Gaud, je ne suis jamais rentré dans le repos. Et pourtant, il lisait sa Bible tous les jours. Mais c'est une chose de lire. Croyez-moi, c'en est une autre de la méditer et de dire, c'est vrai, si on se moque de moi, au moins j'ai eu le courage de dire que j'étais chrétien et je suis fier de l'être. Vous êtes fier d'être chrétien? Hein? Moi, je suis fier d'être chrétien. Quand je travaillais dans les entreprises, je peux vous dire que je n'avais pas honte de dire que j'étais chrétien, j'étais fier de l'être. Voilà. Et je crois qu'on est heureux d'être chrétien. On n'a pas à avoir honte. Bien sûr que tout ça, il faut prier pour que ça se gère. Semble qu'il la médite jour et nuit. Comment il est, ce chrétien? Comment il est? Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Chaque fois que je vais marcher au bord du canal du Midi, je pense à ce verset. Vous avez vu le canal du Midi, ces gros chênes, là, ces gros platanes, qui ont 200 et quelques années, 250 ans. Vous avez vu ces arbres? C'est impressionnant. Pourquoi? Parce qu'ils ont les racines dans l'eau. Et ces arbres, je peux vous dire qu'ils ne sont pas prêts de tomber. Parce que les racines dans l'eau, elles vont à des profondeurs incroyables. Mes frères et sœurs, alors qu'il dit des autres, les méchants, comment ils sont? Ça change un peu quand même. Les méchants, ils sont comme eux? La paille. Il y a quand même une différence entre des chênes de 250 ans et la paille qui est tout le temps dispersée dès qu'il fait un peu de vent. Vous avez vu la différence? Voilà ce qui se passe. Les chrétiens qui ne méditent pas la parole de Dieu avec leur cœur, qui n'entrent pas dans le repos, ils sont comme la paille, ils sont là, dès que ça souffle un peu, ils remettent tout en question, il y a un peu de contrariété, ils sont malades pendant 3 jours, ils se sont moqués de moi, j'en ai marre, j'en peux plus, je vais me mettre en maladie, parce que le chef de service, il m'a dit que j'étais un idiot parce que j'allais à l'église. Moi, ce que je vous dis, je l'ai entendu. Mes frères et sœurs, heureux l'homme qui médite la parole de Dieu. Et demain, je méditerai. Oui, je vais lire et je m'arrêterai peut-être sur un verset. Et ce verset, il va m'enraciner. Il va me faire du bien. Mes frères et sœurs, croyez-le. Qu'est-ce qu'il dit, Jérémie? Jérémie dit, mais béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. On va le lire, ce texte, c'est juste après. Enfin, juste... Jérémie 17. Il y a quelques livres quand même. Il y a le psaume. Jérémie 17. Regardez ce beau verset. Jérémie, on va lire le verset 5 jusqu'au verset 8. Et si des chrétiens se sont fait piéger par les moqueurs, par les pécheurs, s'ils se sont assis en compagnie des moqueurs, c'est parce qu'ils n'ont pas médité la parole de Dieu. Parce que pourquoi il y a des chrétiens qui rétrogradent et pourquoi il y a des chrétiens qui restent fidèles? Parce que ceux qui sont fidèles sont meilleurs que les rétrogrades. Mais non, on n'est pas meilleur, il n'y a pas des meilleurs. C'est parce que les chrétiens fidèles, ce sont les chrétiens qui ne se sont pas fait piéger par ce qu'on vient de lire. Regardez, Jérémie 17, verset 5. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme. Alors maudit, ça ne veut pas forcément dire malédiction dans le sens où il y a une malédiction spirituelle. Ça veut dire qu'on se fait du mal. Maudit, ça veut dire le mal aussi. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui, qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert. Il ne voit pas arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. Dans la version Darby, je crois qu'il est dit, béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel seul est l'espérance. Seul, pourquoi? Parce qu'il n'y a que Dieu qui s'occupe de tout ça. Il est comme un arbre planté près des eaux, qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit pas la chaleur quand elle vient. Et croyez-moi, la chaleur, elle vient à l'extérieur, je vous le dis. Son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a pas de crainte, il ne cesse de porter du fruit. Est-ce que vous voulez être ce genre de chrétien? Eh bien, méditons la parole de Dieu. Seigneur, voilà, demain matin, je vais partir au travail, je prendrai du temps, je vais relire le psaume premier, je vais peut-être même l'apprendre par cœur. Je vais mémoriser les Écritures, je veux absolument être enseigné dans ces choses. Je veux être dans le repos. Recevez mes instructions et vous trouverez le repos. Est-ce que vous seriez d'accord qu'on termine en demandant à Dieu qui nous aide à recevoir toutes ces instructions? Qu'est-ce que je fais de ces instructions? Combien il y en a d'instructions dans la Bible? Combien d'instructions il y a d'après vous? Vous les avez comptées? Bon, pas encore. J'ai compté les questions dans le livre de Job, parce que ça me travaillait l'esprit. 292 questions. On s'en pose des questions. Mais je sais une chose, c'est que Dieu ne se trompe jamais. Et s'il vous dit « faites-moi confiance », vous pouvez lui faire confiance. Vous êtes d'accord pour qu'on fasse un acte de foi, tous? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est d'accord? Seigneur, on te fait confiance. On ne peut pas ne pas te faire confiance. Il a tout préparé, même une ville, une grande ville dans les cieux. Vous connaissez la taille de votre prochaine ville? Vous la connaissez, la taille? 2200 km de large et 2200 km de haut. Moi, je trouve que c'est bien. Dieu a tout préparé, mes frères et sœurs. Tout est prêt. Tout est prêt pour vous, pour demain. Votre mari, il est prêt. Jérémie, votre femme, il la connaît. Vous la connaissez, vous savez? C'est comment elle s'appelle. Adeline, votre mari. Dieu pourrait vous dire ce soir, Adeline, tiens, ton mari s'appelle, je sais pas moi, Jacques. J'espère qu'il n'y a pas de Jacques. Il connaît tout, le Seigneur. Mais vous le croyez, ça? Prenez le nom de vos enfants, de vos petits-enfants. Il sait tout. Il est tout puissant. Faisons-lui confiance. Sortons de ce lieu. Je ne sais pas si vous avez tout compris. Mais dis, Seigneur, je ne peux pas ne pas te faire confiance. Les jeunes, faites-lui confiance. Pour tout. Pour tout. Moi, j'ai entendu des chrétiens. Ah, oh, t'es encore enceinte. Mon Dieu, comment tu vas faire? Écoutez, moi, je crois que Dieu garde ses enfants. Il protège ses enfants. Quand on entend des chrétiens parler comme ça, je pense qu'ils se sont assis un petit peu trop longtemps à côté des moqueurs. Si vous vous asseyez un petit peu à côté du Seigneur, je peux vous dire que vous n'aurez pas peur pour vos enfants et vos petits-enfants. Dieu les gardera. Que le nom du Seigneur soit béni. Notre Père, notre Dieu, oui, tu es digne de confiance. Nous refusons de sortir de ce lieu dans la crainte. Nous choisissons de mettre notre confiance en toi. Et en toi seul, c'est toi qui combats pour nous, c'est toi qui t'occupes de tous nos fardeaux, c'est toi qui conduis, Seigneur, je le crois, et je te prie en particulier pour tous les jeunes de l'Église, afin que tout soit rempli de zèle, de grâce, de confiance, que pas un n'ait peur de l'avenir. Tu as prévu des plans, des projets, des œuvres, des projets pleins de paix et d'espérance, non seulement les jeunes, mais également que les adultes soient des sources de bénédiction pour tous les jeunes de l'Église. Oui, le lendemain aura soin de lui-même. Merci d'avoir pris le temps, Seigneur Jésus, de consigner ces merveilleuses bénédictions dans ta parole. Seigneur, tu aurais pu ne pas nous les donner. Nous aurions pu nous dépatouiller sans ces promesses. Et tu as pris le temps de nous les accorder. Merci, Seigneur Jésus. Merci de nous avoir promis que tu prendrais soin du lendemain. Merci de nous avoir dit que tu serais un secours dans la détresse. Tu connais, oui, pour ces jeunes, le conjoint dont ils ont besoin. Seigneur, nous bénissons les frères et les sœurs de l'Église. Nous bénissons cette ville de Toulouse. Nous bénissons ce pays. Nous refusons de nous asseoir avec les moqueurs, de marcher avec les pécheurs. Nous refusons, Seigneur, ces choses. Nous voulons apprendre à méditer ta parole jour et nuit, afin que notre cœur soit rempli de tes promesses et de tes instructions, parce que nous le croyons vraiment que ton joug est doux et ton fardeau léger, même dans ces temps de la faim. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Amen.